Je vais laisser effectivement le micro à Jean-Sébastien Dehec, donc qui est ingénieur sanitaire, qui fait de l'animation des politiques territoriales de santé publique et fait partie de l'unité de prévention et de promotion de la santé environnementale. Et vous donnez des avis, là je complète, sur les documents d'urbanisme tels que les SCOT, et participer donc à l'élaboration des avis. Et vous essayez de faire se développer et d'encourager à parler un petit peu plus de la santé environnement.
Oui, c'est ça, place. Tout à fait, merci. Donc l'ARS intervient non pas en première ligne sur tous les avis sur les dossiers de planification, SCOT, SRADET, etc., mais voilà, contribue au titre soit de l'autorité environnementale, soit des sollicitations de la DDT, de voir en quoi tout l'aménagement du territoire va contribuer à protéger, préserver, dégrader, améliorer la santé des populations. Donc c'est un peu ça, nous, notre regard. C'est pas forcément de regarder de manière coercitive ou négative, hein, pas voir la santé comme une contrainte, mais se dire, voilà, le projet, est-ce qu'il pourrait pas aller plus loin pour faire encore mieux, en gros, à moyen constant, à choses comme ça, puisque c'est vrai que on sait très bien que ça se passe dans un cadre de planification, et qu'il y a aujourd'hui beaucoup de retours d'expérience et de moyens et d'expertise qui permettent, voilà, d'aller un peu plus loin sur toutes les démarches d'aménagement, et de dépasser un peu la volonté économique ou autre, et de voir que si on place la santé un peu comme un objectif de qualité de vie, de bien-être, de cadre de vie, que finalement ça va découler sur la place des arbres, sur l'accès à des services, à un tissu économique, à la présence ou non de la voiture, aux alternatives, aux activités de loisirs, culturelles, etc. Et que tout ça dans une perspective de cadre de vie, bah ça contribue à améliorer la santé de la population. Là, depuis les années 2020, on a énormément d'études qui le montrent, et le Covid a été, pour nous, pour l'ARS, a été catastrophique, mais on va dire, par rapport au recul des aménagements qui ont été faits et de voir leur impact sur la population, on voit que, autour de chez soi, il manquait plein de choses, alors qu'on pensait avoir tout à portée de main, et que finalement, dans un rayon d'un kilomètre, dans beaucoup de villes, je ne sais pas si c'était dans le cadre du pays sous Toulouse, comment ça s'est passé exactement, hein, mais dans beaucoup de villes, il a manqué des choses et les gens en ont subi les conséquences et donc ça a dégradé leur qualité de vie. Donc c'est vraiment un peu ça, et que le SCOT dans ça peut avoir vraiment un impact fort sur cette volonté de créer un cadre de vie qui va lutter contre les inégalités et pouvoir répondre un peu aux nouveaux usages, aux nouvelles perspectives. Et c'est vrai que par exemple, pour la place de l'arbre, on sait qu'un arbre, ça a été démontré dans certains pays, par exemple en hiver, un arbre protège du vent et donc va économiser jusqu'à 20-25% les pertes d'énergie dans le bâtiment. Ça a été montré en Écosse, ça a été montré aux États-Unis. Donc on voit que les arbres, c'est pas seulement lutte contre le changement climatique, des beaux paysages, ça peut avoir vraiment une fonctionnalité énergétique sur le cadre de vie. On sait que les gens qui ont accès à un espace vert, donc ça c'est sorti en début d'année, les enfants, ils ont un cerveau 5% plus gros lorsqu'ils habitent à moins de 100 mètres d'un espace vert. Ils ont des capacités cognitives beaucoup plus grandes, et ça a été objectivé par des travaux faits en France sur à peu près 5000 enfants. Donc on voit que c'est pas pour faire joli. Ça peut vraiment avoir un impact sur les populations, ça peut rendre attractif, ça peut sédentariser des populations, et c'est quand même, je pense, la finalité de tout aménagement, que les gens s'y sentent bien et qu'ils puissent vraiment s'épanouir, entre guillemets, sur toutes leurs attentes. Donc ça, c'est vraiment, sur l'aspect végétalisation, c'est quelque chose qui est très important et pour lequel je suis assez vigilant. En fait, j'essaye toujours un peu d'argumenter en ce sens-là, qu'il faut faire attention à ça, que contrairement à ce qu'on pense, par exemple, si on reste sur la végétalisation, ce sont des mauvais écrans anti-bruit, mais pour les gens, ça diminue leur perception de nuisance sonore. Je ne sais pas si vous voyez la distinction, c'est-à-dire que les gens vont moins se plaindre du bruit s'ils voient plein d'arbres, même si le niveau sonore est exactement le même. Ça a été montré juste l'année dernière. Par contre, là, l'associer avec un mur anti-bruit, vous allez effectivement diminuer la pression sonore, mais en même temps, les gens vont être satisfaits de l'amélioration apportée visuellement, et après, on peut l'objectiver. Donc c'est des choses comme ça qui permettent, sur l'aspect uniquement végétalisation, d'aller d'intégrer ces dimensions-là à un aménagement et d'avoir une réelle réflexion par rapport à ça, et d'autant plus sur l'espace public. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure des écarts de température sur les îlots de chaleur urbains. En 2019, il y avait 7 degrés d'écart entre la place du Capitole et le bord de la Garonne. Ça a été clairement mesuré. Donc on voit que des aménagements tout en pierre, qui peuvent avoir une certaine qualité architecturale, aujourd'hui, malheureusement, avec le changement climatique, ont des effets délétères qui sont assez importants. Et la canicule en 2021, il y a eu plus de 19% de surmortalité, tout territoire confondu au niveau national. Donc c'est des enjeux qu'on ne peut plus laisser de côté aujourd'hui. Et voilà, juste pour revenir à mon diapo, c'était montrer qu'en fin de compte, l'état de santé des personnes n'est vraiment pas lié à l'accès aux soins, à un certain nombre de services, mais c'est surtout lié au mode de vie, à l'environnement direct, donc l'habitat, ce qu'il y a autour de l'habitat, et aux activités possibles, et que ça contient à peu près voilà, trois quarts des maladies qui peuvent se déclarer sont liées à cet environnement, à ces environnements, et clairement l'aménagement agit sur là-dessus. Si on peut, on parlait des chemins ruraux, comme ça, si les gens ont accès à de la nature, s'ils ont accès à des services, s'ils ont accès à un certain nombre de choses, ils vont sortir de chez eux, ça va lutter contre la sédentarité, contre l'isolement, donc les maladies chroniques, etc. etc. Vous voyez qu'un choix que vous pouvez faire sur un accès à la nature, sur un accès à des services, peut avoir des impacts sur la santé non négligeables, et qu'aujourd'hui on commence à le documenter et un peu à l'objectiver. Donc par exemple, tout à l'heure on parlait des aménagements de centre-ville, si je prends un aménagement style comme une bastide avec des rues perpendiculaires, donc à Barcelone, il y a tout un débat. Alors, c'est une plus grosse ville, c'est pour ça que là-bas, ça a pu être mesuré. Je ne sais pas si vous êtes allé à Barcelone. Voilà, ils ont fait ils appellent ça, je crois, des super blocs. En gros, les voitures sont contingentées sur certains axes. Et à l'intérieur de ces boîtes, de ces carrés, ils ont fait des rues piétonnes. Et en fin de compte, sur ce package de à peu près 200 000 personnes, ils ont montré que la diminution du bruit, des pollutions, etc., les gens vont avoir une espérance de vie augmentée de 200 jours, uniquement par la diminution des pressions environnementales. Et ça peut être reproduit, pas forcément on va chercher à le remesurer dans une petite bastide, mais on voit qu'un aménagement comme ça a un impact sur la santé, parce que ça a été fait à grande échelle, et ça peut être une source d'inspiration pour faire des choses. Et d'avoir un raisonnement par rapport à ça, à la place de la voiture en ville, j'ai vu que c'était une des questions posées là-bas sur le panneau à l'entrée, donc c'est vraiment plein de petits exemples comme ça qui sont faits à grande échelle, peuvent, à petite échelle, dire tiens, pourquoi pas travailler en ce sens-là, parce qu'il y a des effets vraiment intéressants. Et ne pas voir, en gros, la santé environnement comme des contraintes. C'est, on va pas, il y a du bruit, donc les gens vont tomber malades, il y a la pollution en air. Non. C'est plutôt se dire, voilà, tout ce que je fais, en quoi je peux améliorer le cadre de vie, comment je peux travailler sur, à proposer aux personnes quelque chose qui va les préserver d'un certain nombre de nuisances, parce que nos sociétés produisent des choses, qu'on le veuille ou non, différents polluants, donc ça peut être sur les solutions de chauffage, sur les solutions d'isolation des maisons, sur la végétalisation. Et comment je le compense? On parlait tout à l'heure de compensation avec des murs végétalisés. Utiliser la végétation, utiliser ce qui est déjà en place, ne pas détruire pour construire des résidences, comme monsieur en a parlé, où on construit sur le bord de route, il n'y a plus d'espace public, donc on ne peut pas mettre d'arbres, donc ça, etc. Et tout ça, ça a un impact direct ou indirect sur la santé. Et on voit que dans certains PLU qui découlent de ce code, donc là j'en ai cité quelques-uns, qui sont souvent à grande échelle, sur Grenoble, Nantes, etc., ils ont vraiment proposé des petits schémas très simples, pour dire voilà comment on aménage, comment on construit, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et sur Blagnac, ils ont fait par exemple toute une étude en 2018, juste sur la disposition des bâtiments à l'échelle d'une grande zone. Ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à diminuer de 3 à 4 degrés l'ambiance de chaleur en été, uniquement en profitant de certaines formes du bâtiment qui allaient accélérer le vent, qui allaient favoriser la dispersion de la chaleur. Donc c'est budget constant, moyens constants, mais c'est uniquement une disposition qui va faire qu'on va utiliser des phénomènes naturels pour diffuser de la chaleur. Et donc après, le bâti se retrouve d'autant moins à devoir installer des clims ou autres, etc. Donc, je ne parle pas bien sûr des moustiques, c'est mon cœur de métier. Mais il y a aussi cette problématique des plantes envahissantes. Vous avez bien compris, un certain environnement, pour nous, c'est voilà, cadre de vie. Et que les problèmes en ville ne sont pas du tout les mêmes dans les petits villages ou autres. Et il y a bien sûr tout ce qui est inégalité sociale de santé, c'est-à-dire que des gens qui peuvent se retrouver vraiment isolés à des endroits et que l'aménagement les incitait encore moins à sortir. Et cette sédentarité est vraiment source d'un grand nombre de maladies. Et que toutes les actions qui sont faites séparément, comme on parlait tout à l'heure, verticalement, on va lutter contre le bruit, on va améliorer la qualité de l'air, on va lutter contre la chaleur, ce travail à silo n'est pas toujours fondamentalement productif. Et que si on met ça dans une logique de santé en disant, voilà, à tel endroit, bon, il y a peut-être un problème de chaleur urbain. Bon, il n'y a pas de route qui passe, donc la qualité de l'air, c'est moins un souci. Et avoir une vision un peu pour chacun des quartiers sur lesquels on travaille, qui va combiner toutes les actions possibles, au lieu de se dire je les applique un peu mécaniquement, et voir quelles sont les meilleures opportunités qui auront le plus grand impact sur le cadre de vie des personnes. Donc c'est un peu cette idée-là que j'essaye dans les avis de transparaître, dans tous les OAP des PLU, parce que c'est aussi, on rend des avis là-dessus pour dire voilà, les choix qui sont faits, peut-être on peut aller plus loin, peut-être c'est un peu inutile. C'est un peu dans ce sens-là qu'on essaye de vous aider, qu'on est prêt à échanger, puisque ça m'intéresse beaucoup.
Donc là, on va laisser la place aux questions qui complètent bien, à mon avis, la question du paysage.
Je trouve ça passionnant, mais la problématique, c'est comment, de la théorie, on passe à l'exécution. Je veux dire que malheureusement, ce n'est pas toujours nous qui avons les clés de tout. dans la mise en œuvre, même si on, à travers une OAP, on peut faire des choses. Moi, je vois, par exemple, quand on a des constructeurs, je tape pas sur les constructeurs, c'est pas le but, mais de temps en temps, ben, ils vont à l'économie, hein, c'est normal, hein, tout est une question d'argent, et ils respectent pas certaines règles, et à la fin, on se retrouve avec des choses compliquées, et même quand on met des règles, et jusqu'où on a le droit, j'allais dire, de conditionner les règles, finalement, pour pouvoir aboutir à ça. Parce que cette théorie-là, je pense que on est prêt, en tant qu'élu, à y travailler, mais après, être dans la mise en œuvre, comment on peut contraindre quelqu'un, finalement, c'est son bien propre, d'appliquer ses règles.
C'est la limite du PLU, hein, c'est qu'il ne peut pas s'attaquer à l'habitat. Il y a une étude qui est sortie en décembre qui montre que, de l'Observatoire national du cadre de vie, que pour les Français, leur principale préoccupation, c'est l'habitat et le calme. Mais malheureusement, les documents d'urbanisme, comme vous le savez, ben, sur l'habitat, on peut pas, voilà. On peut travailler éventuellement sur l'aspect extérieur, mais sur l'aspect intérieur, puis après les malfaçons, c'est vrai que là, on se retrouve sur un problème lié au projet et qui peut perdurer et dégrader tout un environnement.
Ouais. Jacques Doumerque, du Conseil de développement. C'est vrai que votre intervention est assez interpellante quand on la met face à face avec les règles de la ZAN, notamment, dans la mesure où vous nous dites effectivement, si on prive les enfants d'espace vert, la taille de leur cerveau s'en voit diminuer, et qu'aujourd'hui, il faut aujourd'hui plus d'espace vert, et qu'en fait, la tendance actuelle, dans la mesure où on parle de densification, c'est-à-dire de ramener la majorité de la population qui arrive sur notre territoire toulousain plutôt vers la ville dense, c'est-à-dire d'habiter au 10e étage d'une tour à Toulouse, par rapport à, comment dire, à l'avantage que peut présenter ce territoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont pas encore bien compris exactement au travers de la ZAN ce qui se dessine, mais c'est quand même, à travers ce que vous venez de dire, c'est quand même assez inquiétant, dans la mesure, ça voudrait dire qu'on ne tient absolument pas compte de toutes les conditions liées à la santé, dans la mesure où l'objectif, c'est effectivement d'arriver à empiler les gens, de réduire les espaces, parce qu'on a parlé tout à l'heure des maisons à ras des voiries, qu'on réduit petit à petit la taille des parcelles, donc moins d'espace. Alors, si peu que, bon, on y mette une piscine et un peu de béton, il y a plus de gazon. Voilà, je sais pas, je trouve ça assez interpellant.
S'il existe des solutions, je sais que sur le 31, certaines communes, j'ai vu des projets passer, par exemple, où ils appliquent le ZAN dans une OAP sur une commune du Sicoval, où en fin de compte, ils ont construit des résidences étudiantes sur des terrains classés AU. Et en gros, dans le projet, le bâtiment est resté sur une zone constructible. Tous les espaces verts, ils ont classé en zone N. Si bien que le terrain qui était UA au début est devenu 50% N, 50% constructible, et ils ont gagné 50% de la surface qui était au début à urbaniser. C'est des choses comme ça se fait dans le 31. C'est peut-être des pistes à voir sur comment profiter du ZAN pour mettre de l'espace vert. Donc là, pour le coup, on va se retrouver avec des logements étudiants, avec des espaces verts directement autour. Donc on reste dans cette logique quand même assez intéressante. Et en même temps, par rapport au ZAN, on est quelque chose d'assez constructif et on a gagné même de la ressource.
Moi, c'était à peu près exactement la même question que le monsieur précédemment. Enfin, on est en pleine contradiction. J'ai l'impression de rêver là, un petit peu, dans les discours. Je sors un petit peu des communes et peut-être des capitales en Europe qui ont beaucoup d'espaces verts. Pourquoi, nous, on fait de la concentration humaine? Ah, ouais. Je pense à Londres, je pense à Berlin. Une fois de plus, on est en pleine contradiction. Tout à l'heure, madame n'a pas répondu. On est en pleine contradiction entre le paysage et le développement d'une certaine agriculture. Une fois de plus, on est en pleine contradiction. Donc c'est pour ça que je dis j'ai l'impression de rêver.
C'est vrai qu'en France, il peut y avoir aussi les contradictions de réglementation qui s'empilent. Donc...
Oui, c'est là que je pense qu'on va avoir besoin d'avis techniques des paysagistes pour le réaménagement des villes, pour que plutôt que les espaces verts soient individualisés et parfois un peu trop artificialisés par les piscines et par les chemins d'accès aux jardins bitumés et autres, de pouvoir aménager des espaces publics végétalisés, communs à plusieurs, et de vrais endroits ressources pour la collectivité. Et je pense que les élus ne sont pas toujours prêts à mettre en place ce genre de dispositif, parce qu'ils ne le comprennent pas tous. Et c'est là qu'on aura besoin vraiment de soutien technique pour savoir comment on réaménage une place, comment on désimperméabilise, comment on le rend commun à tous, l'espace vert, ressourçant tel que vous l'avez décrit.
Peut-être juste par rapport à votre crainte, il me semble que sur votre territoire, on ne va pas vers une production de tours dans les campagnes. Enfin, ce n'est pas du tout ça l'objectif. Et quand vous parlez de Londres, c'est une ville dense. Par contre, c'est une ville qui a su se garder des espaces verts importants et que justement elle n'est pas dans l'émiettement où on fait un grand jardin privé et puis que des petits milliards de petits endroits très durs à gérer. Parce qu'en fait, le pire pour la gestion, le pire pour la biodiversité, c'est d'avoir que des petits lieux trop disséminés. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment réfléchir à quelle est la place d'un espace vert qui est effectivement un espace vert plutôt communal, mais je veux dire, il y avait des prés communs où on mettait les bêtes. Enfin, ça peut être des choses très simples en termes de gestion, mais c'est vrai que ça veut dire qu'il faut renouer avec l'idée de qu'est-ce que c'est que le bien commun quoi, à partager. Et que forcément, c'est un peu de charge. Là où je vous rejoins, c'est qu'il faut peut-être réfléchir à quel mode d'entretien, quel mode de gestion adapté à des financements. Est-ce qu'à un moment donné, ben, les villes, elles aident pas aussi les campagnes à gérer leur chemin, parce que finalement, c'est au bénéfice de tous. Je suis d'accord avec vous, parce que ça repose des questions de solidarité différentes. Et que le petit village, il peut pas vivre tout seul. En fait, il va falloir trouver des solutions, mais il est indispensable à l'ensemble. Alors, juste un chiffre pour compléter ce que vous disiez. Quand on travaille sur les villes ou sur les communes plutôt denses, hein, des métropoles souvent, le chiffre minimal à atteindre pour l'OMS, c'est 12 mètres carrés par habitant. Aujourd'hui, on a des métropoles qui sont bien en dessous.
Vous avez vraiment mis le doigt là où ça fait mal, c'est le problème des agents, du temps d'agents. Bien sûr, il faut réfléchir à d'autres modes, etc. Je suis d'accord, mettre des fleurs qui ne se coupent pas tous les 15 jours, etc. Bon. Mais moi, je me heurte au quotidien, c'est aussi au fait qu'il manque de transversalité, vous en avez plus ou moins parlé aussi, entre les services et entre les délégations des élus. Hein, c'est parce qu'il y a quelqu'un à l'environnement, il y a quelqu'un à la voirie, il y a quelqu'un à l'urbain, il y a quelqu'un au CCAS, enfin la santé, et c'est très rare qu'on arrive à travailler ensemble. Le PLU, c'est un excellent exercice pour ça, mais au quotidien... Ben, la voirie, c'est du bitume. Les trottoirs, quand ils sont très très étroits, ben, de toute façon, on peut pas y marcher dans nos centres-villes anciens qui sont justement magnifiques. Donc les débats, c'est est-ce qu'on les laisse avec des herbes folles qui peuvent être remplacées par des fleurs. Bon, ça, la démarche est en cours, mais ou est-ce qu'on les bétonne pour faire plaisir justement aux riverains qui ont toujours ce regard de la ville est sale. On entend ça tout le temps. Et en fait, la question de fond, c'est changer le regard des habitants. Évidemment, si chacun entretenait son trottoir et balayait le trottoir devant chez lui, ça serait l'idéal. Malheureusement, on a quand même de plus en plus de rues urbaines, je ne veux pas être méchante. Donc c'est vrai que traditionnellement, les gens balayaient leur trottoir. Et aujourd'hui, ça ne se fait plus, pratiquement plus. Hier, je me faisais encore la réflexion dans un lotissement. C'est propre jusqu'à ras du grillage à l'intérieur, enfin propre, bien tendu, etc. Et vraiment, le trottoir, même s'il y a une canette de bière, personne ne va la ramasser, quoi. Et ça, c'est vraiment un problème de fond. Bon, voilà. On essaye de mettre des messages dans les bulletins municipaux, etc. Mais il faut déjà qu'entre élus, on soit tous d'accord. Et c'est pas du tout le cas.
Juste dire que moi, je suis nouvellement arrivé sur le territoire. C'est-à-dire on commence à être associé avec certaines communes en amont, hein, qui nous présentent avant de rentrer dans les démarches administratives. Ils sont volontaires pour échanger sur ces thématiques-là et avoir un regard santé qui sera un peu transversal à toutes les thématiques classiques. Et donc, c'est vrai que ça, là-dessus, on est vraiment disponible pour pouvoir s'adapter à vos contextes et échanger avec vous là-dessus, vraiment avec grand plaisir, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment préparer le territoire de demain pour tous les habitants, tous les Hauts-Garonnais. Voilà.